BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, bientôt 18h, bienvenue si vous nous rejoignez dans Good Evening Business comme tous les soirs. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume.
Dans l'actualité ce soir, beaucoup de choses, encore des petites choses entendues, vues au salon de l'auto. On va raconter tout ça, on y est évidemment plus ou moins toujours sur BFM Business. Cette grève chez Ubisoft qui a commencé, alors Ubisoft qui va très mal et puis pour ne rien arranger, c'est le moment qu'a choisi la direction pour mettre le frein sur le télétravail. Ça c'était la goutte d'eau, on va aller sur place dans un instant. Votre invité dans 10 minutes Edwige.
Stanislas de Bensman, il est président cofondateur de Devoteam qui veut doubler son chiffre d'affaires grâce à l'IA, l'intelligence artificielle. Il veut renforcer, il veut aller chercher les entreprises toujours un peu réticentes et il veut nouer de plus en plus de partenariats, notamment avec des géants américains. Est-ce qu'il y a un petit problème de souveraineté? Et puis l'IA, est-ce que finalement ça rapporte ou pas en termes de rendement pour les entreprises?
Eh ben, on verra ça à 18h30, on débriefera tout ça avec vos experts. On parlera aussi de ces chiffres de défaillance d'entreprises qui sont tombés ce matin, alors qu'ils ne sont pas rassurants au premier abord, mais peut-être un peu plus quand on creuse. Le patron du cabinet Arc, cabinet de recouvrement qu'on connaît bien, sera avec nous pour les décrypter. On parlera d'Atos, avec encore de l'actualité, et puis ces retraités qu'on semble vouloir les taxer un petit peu plus encore. Voilà pour le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, évidemment.
À tout à l'heure.
Good evening business, le journal.
Donc oui, pour commencer, cette grève un petit peu originale qui a débuté aujourd'hui chez Ubisoft. L'éditeur français de jeux vidéo accumule les mauvaises nouvelles sur le plan commercial depuis quelques mois. Le cours de bourse dégringole, les salariés sont à cran. Et c'est le moment qu'a choisi la direction pour mettre le frein sur le télétravail. Nathan Cocampo est devant le siège d'Ubisoft à Montreuil. Nathan Cocampo, qu'on va retrouver dans un instant du côté du siège d'Ubisoft. Je ne sais pas si on peut le joindre. Non, apparemment, mais on va le retrouver bien sûr dans un instant. Dans l'actualité ce soir, le dossier Doliprane qui continue de faire causer. L'État pourrait, c'est Antoine Armand qui l'a déclaré, l'État pourrait entrer au capital de la filiale Opella, propriétaire entre autres du Doliprane. Il pourrait entrer s'il avait le sentiment que les engagements qu'il a réclamés lui semblent menacés. Et puis, grosse journée, je vous le disais, chez Atos, puisque la justice est censée valider le plan de sauvegarde du groupe. Atos va passer sous le contrôle de ses créanciers, mais reste quand même très endetté. Dit autrement, il faut s'attendre à une nouvelle cure de minceur dans les 2 ans. Mathieu Pechberti.
Actionnaires, créanciers, banques françaises et concurrents, plus personne ne croit au redressement d'Atos. Le groupe va conserver plus de 3,5 milliards d'euros de dettes, dont une partie à des taux prohibitifs, compris entre 10 et 13%. Les banques françaises estiment qu'Atos est toujours trop endetté et qu'il faut encore effacer 1 milliard d'euros de dettes, au point que selon plusieurs sources, elles vont cesser de financer la trésorerie du groupe, de peur de perdre encore de l'argent. Seules les banques étrangères Barclays et Deutsche Bank assureront la liquidité d'Atos au quotidien, du jamais vu pour un grand groupe français. Le groupe de services informatiques ne dégagera pas de cash avant 2026 et encore, c'est sans compter l'immense charge d'intérêt de sa dette. Un modèle économique intenable dans un secteur des services informatiques qui souffre. Les nouveaux actionnaires se préparent déjà à prendre des décisions stratégiques majeures, nous explique l'un d'eux. La scission d'Atos reste dans tous les esprits et le nom des deux anciens candidats sur toutes les lèvres. Si Daniel Kretinsky semble avoir tourné la page, David Layani regarde toujours le dossier.
Ça va encore bouger au sommet de l'entreprise puisque le groupe l'annonçait ce matin. Philippe Salle, qui était en poste dans l'immobilier chez Emeria. Philippe Salle a en fait été nommé hier président du conseil d'administration d'Atos. Il sera nommé PDG le 1er février prochain. Il succédera donc à l'ancien banquier Jean-Pierre Mustier. Gros plan social dans la grande distrib. Vous vous souvenez qu'en juillet, Carrefour avait racheté notamment son concurrent Cora. Il va fermer le siège social de Cora qui se trouve en Seine-et-Marne. 340 postes devraient être supprimés, mais 120 devraient être créés en parallèle au siège parisien de Carrefour. 18h03, pendant ce temps, les politiques qui défilent au salon de l'auto. Et ce matin, c'est le ministre de l'économie et des finances, Antoine Armand, qui a fait plaisir à la profession. Il est prêt, il l'a dit, à aller à Bruxelles pour demander qu'on repousse le durcissement prévu l'an prochain des normes anti-CO2. Ce durcissement qui pourrait coûter des milliards aux constructeurs. Écoutez le ministre.
Des amendes de plusieurs milliards d'euros à l'échelle européenne limiteraient d'autant, non pas seulement nos objectifs, mais nos capacités d'investissement dans le verdissement. Et ces amendes auraient, je crois, des répercussions sur l'ensemble des fournisseurs qui sont déjà, partout en France, sous forte pression. Nous sommes en train d'explorer toutes les flexibilités, j'insiste, toutes les flexibilités, en coalition avec nos partenaires européens et avec celles et ceux en Europe qui sont le plus engagés sur cette question. Nous sommes en train d'explorer toutes les flexibilités qui sont nécessaires pour éviter de pénaliser nos constructeurs, de les pénaliser dans leurs investissements, justement au moment le plus crucial de leur transition industrielle.
Voilà pour ces normes CO2 durcies dont tous les grands constructeurs demandent le report, à l'exception, on l'entendait hier, de Carlos Tavares chez Stellantis. Carlos Tavares, justement, qui s'est encore exprimé aujourd'hui au Salon de l'Auto et qui lui aussi a fait une petite sortie intéressante. Il est persuadé que, face à tous les défis auxquels est confrontée l'industrie auto, il y aura encore des mariages entre les grands constructeurs occidentaux dans les prochaines années. Écoutez.
When you look at the market caps and the trends of the different companies, it's so clear. We have done this exercise very recently. It's obvious.
Quand on regarde les capitalisations boursières et l'évolution des différentes entreprises, c'est très clair. Il est évident qu'il y aura davantage de consolidation au cours des 5 prochaines années. Notre industrie dépense beaucoup à cause des réglementations et parce qu'il faut gérer en même temps l'ancien et le nouveau monde, ce qui coûte très cher. En conséquence, la rentabilité moyenne des entreprises diminue. Dans ce contexte, le besoin d'être grand pour rentabiliser ses investissements est encore plus important. La consolidation est loin d'être terminée, en particulier chez les constructeurs occidentaux.
Voilà Carlos Tavares tout à l'heure au Salon de l'Auto. Je vous l'avais promis, on va aller au siège d'Ubisoft à Montreuil, grève qui a commencé aujourd'hui, qui doit durer 3 jours, salariés à cran. Et c'est le moment, je vous le disais, que la direction a choisi pour durcir les règles sur le télétravail. Nathan Cocampo est sur place pour BFM Business.
Oui, une centaine de salariés sont présents ici devant le siège. Alors le nombre peut paraître faible, mais il est historique pour Ubisoft, historique aussi pour le secteur du jeu vidéo. La raison principale de cette mobilisation, ce sont donc les craintes d'un retour au présentiel 3 jours minimum par semaine. J'ai notamment discuté à un salarié installé à Troyes, venu spécialement aujourd'hui. Il travaille à distance pour le studio parisien et ne sait absolument pas ce que l'avenir lui réserve. Mais le malaise des salariés va au-delà de cette question du télétravail.
Là, ça fait 2 ans que les augmentations de salaire ne suivent pas l'inflation et que par conséquent, le niveau de vie des travailleurs et des travailleuses baisse dans notre industrie. On essaye de trouver des palliatifs. Dans le cadre du télétravail, un de ces palliatifs pour les gens, ça a été pour certains de s'exiler loin en France et de trouver des endroits où les loyers sont beaucoup moins chers. Nous, ça faisait plusieurs mois qu'on demandait à avoir un accord sur le télétravail, le lancement de négociations qui n'ont pas été lancées comme beaucoup d'autres.
Manque de revalorisation salariale, perte de confiance du management, absence de communication entre la direction et les salariés. Si en 2017, face à l'OPA de Vincent Bolloré, Yves Guillemot était fortement soutenu et salué par ses salariés, aujourd'hui, le divorce semble amorcé. Il est peut-être même déjà consommé.
Nathan Cocampo à Montreuil, chez Ubisoft pour BFM Business. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
D'abord un mot de deux chiffres qu'on attend, des chiffres qu'on attend du côté d'LVMH et Fnac Darty, ça n'a pas tardé a priori.
Oui, qui sont tombés après la clôture. Alors LVMH, croissance organique négative au troisième trimestre et un chiffre d'affaires sur la même période qui est inférieur aux attentes du côté des 19 milliards d'euros, on attendait 20 milliards. Et le titre LVMH, alors coté à Wall Street, puisque ça s'est fait après la clôture à la Bourse de Paris, est en recul de 5%. Donc là, le flow est très mauvais pour LVMH à court terme. C'est vrai qu'il y a un petit coup de pompe sur le troisième trimestre. Fnac Darty, en revanche, le chiffre d'affaires est supérieur aux attentes à 1,8 milliard d'euros et puis ils relèvent leurs prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui est quand même à noter.
Bon, tout ça dans une tendance qui n'est pas très bonne sur les marchés en ce moment.
Non, ça faut bien le dire, il y a eu une accumulation de mauvaises nouvelles. Et surtout en fin de séance, profit warning d'ASML dans les semi-conducteurs. Ouais. Le titre a chuté de plus de 10% du côté de la bourse d'Amsterdam et a entraîné à la baisse l'ensemble du compartiment technologique. Alors à Paris, ST Micro perd 3,12% à 25,02€. On a Soitec, plus forte baisse du SBF 120 à moins 9,6%. Et alors surtout l'Euronext Tech Leaders, notre Nasdaq à nous, qui perd plus de 4%. En clôture, en intraday, c'est sans doute du jamais vu depuis que l'indice fonctionne. On a eu la forte baisse des prix du brut. On est du côté des $73 pour le Brent qui a entraîné Total, qui perd 4,8% à 59,49€, vu la pondération de Total, évidemment ça ankylose le CAC 40. Et pour ne rien arranger, profit warning chez Coty, le seul concurrent à la hauteur de L'Oréal, hein, l'américain Coty, ouais, qui est aussi coté à Paris, qui a perdu 10%, et L'Oréal dans le sillage perd 3,9% à 376,40€. Alors c'est vrai que de l'autre côté du tableau, on a Air France KLM qui regagne 4,4% à la faveur de la baisse des prix du brut à 8,74€, mais enfin tout cela est bien léger, le CAC donc termine sur une baisse d'un petit peu plus d'1%, 7521.
On va appeler ça de mauvaise journée. Merci beaucoup Antoine. On regarde Wall Street rapidement. Le Dow Jones à mi-séance qui perd 0,26%, 42 953. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd quasiment 1%, effectivement 18 333 points. 18h09, c'est donc Stanislas de Bensman, le président fondateur de Devoteam, qui est l'invité de la grande interview avec Edwige Chevrillon. C'est dans 2 minutes sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Me voilà de retour en studio avec mon invité Stanislas de Bensman, qui est le président cofondateur de Devoteam. Bonsoir Stanislas de Bensman.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous. Devoteam, c'est conseil en technologie, et puis j'ai envie de dire maintenant c'est conseil en intelligence artificielle. En tous les cas, c'est pour ça que vous êtes là. Vous venez de présenter un plan qui s'appelle Amplify. Vous avez l'ambition de doubler votre chiffre d'affaires, atteindre 2 milliards en 2028 avec l'IA. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes autour de l'IA, savoir si c'est pas trop tôt, si on n'investit pas trop. On va revenir là-dessus, mais d'abord, comme vous êtes un des entrepreneurs français emblématiques, vous avez créé votre entreprise, vous êtes donc gagné pas mal d'argent. Est-ce que le budget 2025, il vous fait, je vois que vous avez un grand sourire, mais est-ce que vous allez encore sourire dans quelques secondes quand on va parler du budget 2025 et des surtaxes sur l'IS et notamment sur les plus fortunés?
Oui. Non, je crois que le sujet de la fiscalité, malheureusement, c'est que c'est une espèce de nuage, c'est un rideau de fumée. Notre problème, c'est pas d'augmenter la fiscalité en France. On est déjà très fiscalisé. Notre problème, c'est nos coûts de structure, la réforme de l'administration.
Oui,
c'est ça
connaît.
Le problème. Donc, en fait, un nouveau gouvernement arrive et au lieu de s'occuper des problèmes structurels, qu'on peut voir chacun dans notre vie tous les jours, on a un état très lourd. On s'attaque pas au sujet. On s'attaque pas à la flexibilité du marché du travail. On s'attaque pas au temps de travail en France, qui est un sujet très profond qui nous met en difficulté de compétitivité depuis des décennies. On va rajouter une couche, la solution simple, on rajoute une couche de fiscalité en pensant que ça va arranger. Mais ça plombe l'économie, on le voit sur les consommateurs, sur les entreprises. Donc on avait quand même beaucoup de doutes depuis la dissolution, l'économie se sentait mal en France, et on rajoute une couche d'inquiétude, et donc on vient, malheureusement, je pense, accentuer le côté récession de l'économie européenne. C'est dommage.
D'accord. Vous le ressentez, vous ?
Bien sûr que
Parce que vous faites du conseil en technologie, donc vous avez vos clients, on a des entreprises de services. Est-ce que vous sentez cette fragilité économique ?
Évidemment. On le sent depuis plusieurs quarters, mais depuis plusieurs trimestres. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on le sent très bien. Il y a une inquiétude générale sur l'immobilier, sur la consommation. Vous avez vu les résultats des premiers résultats qui ont l'air d'apparaître sur le troisième trimestre. Ils sont pas bons. Donc, non, je pense que c'est dommage d'attaquer toujours de travers les problèmes. On a, et c'est normal, beaucoup de sujets à adresser pour un nouveau gouvernement qui a pas de majorité. Enfin, la situation est compliquée. Et
la situation
on retombe
budgétaire.
Dans les travers.
Oui, la situation budgétaire. Il a 15 jours pour faire, enfin, il a eu 15 jours pour faire un budget, même si c'est pas totalement exact, parce qu'évidemment, Bercy avait déjà préparé quelque chose. Mais ça veut dire pour vous, Stanislas de Bensman, que vous dites, c'est ce qu'il y a de plus facile et d'efficace, et hop.
Voilà. La droite arrive au pouvoir, tant qu'elle rajoute un impôt, 2, 3, 4, ça y est, on communique sur les riches, comme ça, c'est quand même moins pénible, c'est moins douloureux, et puis, bien sûr, on va taxer tout, parce que quand l'économie est plombée, vous pouvez pas, c'est pas les riches ou les pauvres qui souffrent, c'est tout le monde. Tout le monde souffre d'une économie plombée. Donc, en fait, voilà, on est on est un peu à l'envers de ce dont le pays a besoin. C'est dommage. Peut-être qu'il faut attendre un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité qui peut peut-être prendre des décisions plus profondes, plus structurelles. C'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin d'une couche de fiscalité dans un pays qui est déjà extraordinairement fiscalisé. Et encore une fois, ça plombe les résultats des entreprises, donc la création de richesses.
Vos résultats, ils ne vont pas être très bons. Ils vont être plombés, justement.
Nos résultats, ils restent honorables dans un secteur, la technologie, qui reste exceptionnel. Mais évidemment qu'ils sont moins bons dans un contexte de ralentissement économique qu'ils devraient l'être.
Oui, en même temps exceptionnel, Capgemini, Sopra, ils ont fait des profit warnings, on voit bien la situation d'Atos. Vous êtes, évidemment, aucune entreprise n'est similaire, mais vous évoluez un peu dans ce secteur-là.
Tout à fait.
Donc, vous, non, pour vous, ça marche.
Alors, ça marche pour Devoteam parce qu'on a un positionnement, j'ai eu l'occasion de vous le présenter, un positionnement extrêmement dans l'innovation technologique, alors que les grands groupes dont vous parlez sont plus généralistes, ils couvrent beaucoup de sujets, avec beaucoup de sujets qui sont, eux, en stagnation, voire en régression. Donc, oui, on a une meilleure dynamique que d'autres acteurs, on n'a pas les difficultés d'Atos, on a une dynamique plus positive, mais enfin... Le cycle économique nous impacte et il est évident que même si on a une grande ambition pour le plan Amplify dont vous parliez, qui est basé, on y reviendra, sur l'intelligence artificielle,
on y arrive.
C'est sûr que la dynamique reste positive et c'est une chance pour nous, évidemment.
Alors, votre dynamique, vous la basez sur l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire, je vous fais confiance, mais en même temps, c'est aussi un peu de la tarte à la crème. Vous voyez,
oui.
Dès que vous êtes dans le conseil en technologie, je fais de l'intelligence artificielle.
Bien sûr.
Vous êtes d'accord avec moi.
Absolument.
Qu'est-ce que vous allez apporter plus? Comment est-ce que vous voyez, comment vous comptez un peu atteindre et convaincre les entreprises? Parce que les grandes entreprises, bon, éventuellement, elles peuvent voir. Mais pour l'instant, il y a un côté un peu basique, c'est-à-dire je fais le service client, je fais le service achat. Comment convaincre des entreprises que, un, ça ne va pas leur coûter trop cher, et deux, ça va directement impacter leur rendement, vous voyez? Parce que sinon, si c'est juste pour faire bien, ah oui, j'utilise l'intelligence artificielle, ça ne va pas fonctionner dans quelques
bien
mois.
Bien sûr. Alors, d'abord, pourquoi Devoteam a un positionnement spécifique? C'est qu'en fait, on a, depuis une dizaine d'années, développé des partenariats sur le cloud, sur la cyber, avec les acteurs de l'innovation technologique. Ouais. Ils nous ont naturellement amenés avec eux dans l'intelligence artificielle. C'est les grands investisseurs de l'intelligence artificielle.
On reviendra là-dessus, parce
Google,
qu'il y a
Google, AWS, Microsoft. Bien sûr, je comprends les sujets de souveraineté, mais en tous les cas, c'est pour ça que Devoteam a un positionnement si spécifique. C'est qu'on a investi avec eux dans l'innovation technologique et on s'est retrouvé dans l'intelligence artificielle, naturellement, comme un prolongement de ce qu'on a développé au niveau du cloud. Alors, après, vous me dites que les entreprises peuvent hésiter, etc. Mais c'est normal. Une très grande innovation qui arrive comme ça, vous ne pouvez pas imaginer que tout le monde va être d'accord, clair dans ce qu'il doit faire. Oui. Ça, on voit
et
que tout le monde
tâtonne. Où est le rendement? Vous voyez, qu'est-ce que moi, ça me rapporte? Je suis chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous allez me rapporter? Enfin, qu'est-ce que...
Vous voulez
que
je vous donne un exemple précis?
Allons-y.
Il y a 5 ans, un coût de traduction, c'était 1 centime par mot. Aujourd'hui, c'est 0,1 centime par mot. Vous voyez? Donc, si vous avez des très gros volumes de data à traiter, là, je parle de traduction, mais ça peut être le traitement, quand vous avez des sujets où vous avez énormément de data à traiter, pour les simplifier et les rendre disponibles très rapidement pour les salariés, l'intelligence artificielle a déjà fait des gains de productivité gigantesques. On va pouvoir automatiser énormément de données. Et la donnée, ça peut être très puissant si c'est bien utilisé. Ça sert à rien si c'est stocké et ça ne sert à rien. Et c'est pas utilisé. Donc, oui, l'intelligence artificielle va avoir un potentiel gigantesque. On le découvre petit à petit. Les usages, ils sont devant nous. Donc, les entreprises, elles tâtonnent. C'est normal. Elles vont trouver les usages petit à petit. Comment bien utiliser l'intelligence artificielle? Si vous voulez pas vous mettre dans ce cycle-là, vous pouvez. Avec un énorme risque, c'est que votre concurrent direct, lui, s'y mette. Il découvre les usages qui vont faire des gains de productivité très importants. Et là, une fois que vous avez perdu le contact avec les meilleurs de votre marché, c'est très compliqué de revenir dans la boucle. Donc, chaque entreprise actuellement, je vous dis, on a des milliers de clients qui sont en train de regarder comment ils vont se saisir de l'intelligence artificielle. C'est normal qu'ils fassent ça par petites touches. Personne ne doit faire un move dans l'intelligence artificielle radicale, sauf si vous êtes une start-up et que vous partez de zéro. Sinon, si vous avez un gros des actifs, vous allez
et
le faire.
Et comment vous travaillez? Comment vous les accompagnez?
Comment on les accompagne?
Monsieur, voilà, je fais de l'IA.
On travaille déjà avec 80% de l'Eurostock 50.
Oui. Hein,
donc on a déjà une base de clientèle sur le cloud, sur la cyber, sur la data. C'est à peu près, enfin quasiment toutes les grandes entreprises européennes. Donc naturellement, on parle avec eux tous les jours sur les projets qui existent et sur l'innovation technologique sur lequel ils travaillent déjà. Donc encore une fois, l'IA, c'est un prolongement. C'est-à-dire, quand vous avez pu intégrer à vos systèmes d'information, au système nerveux de l'entreprise, le cloud au cœur, la data et l'IA, donc l'intelligence artificielle, devient un outil naturel pour prendre les bonnes décisions parce que vous avez les meilleures données. Et en fait, c'est un atout. Je le dis très clairement, personne ne va pouvoir s'extraire de cette vague d'innovation, sauf à prendre des risques majeurs ou être dans des métiers totalement locaux, sans pression concurrentielle.
Alors, vous dites, ça va, bah c'est simple, les ambitions de Devoteam, ça va doubler mon chiffre d'affaires, enfin, je veux doubler mon chiffre d'affaires en 4 ans, 2028. Comment ?
Oui, alors, si vous voulez, on est un acteur de l'innovation technologique. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir une innovation qui va venir profondément transformer les entreprises. Et dans ce cycle-là, nous, on va pouvoir prendre des parts de marché à nos concurrents qui n'auront pas été aussi bien placés naturellement parce qu'ils étaient peut-être moins forts dans le cloud que nous. Et puis, vous avez, et c'est la vie concurrentielle des entreprises, quand vous avez des entreprises en difficulté qui perdent des parts de marché, qui font des profit warnings, ben ceux qui sont mieux positionnés, ils accélèrent. Et donc, ça se fait avec la croissance du marché, mais aussi parce que d'autres acteurs vont être moins bien placés et donc ils ne seront pas capables d'aider les entreprises à se transformer.
Vous avez 11 000 collaborateurs dans le monde, 4 500 en France. Donc ça veut dire que vous en avez plus à l'étranger. Quel est le rapport d'abord ? Ce sont que des ingénieurs ?
Principalement.
Ouais. Et quel est le rapport à l'IA dans d'autres pays européens où vous êtes ?
On est globalement en Europe dans des cycles très similaires. Hein. Vous allez chez Santander en Espagne et BNP Paribas en France, vous n'avez pas de différence majeure. Mmh. Il y a des différences, bien sûr, chaque entreprise est différente, mais vous n'avez pas de différence majeure de maturité par rapport à la technologie. Donc l'Europe est relativement homogène, l'Europe de l'Ouest en tous les cas, et donc ça fait que ce marché-là est homogène. C'est sûr que quand vous allez un peu plus loin, que ce soit vers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe de l'Est, vous pouvez avoir des pays qui sont un petit peu moins développés et qui travaillent dur pour rattraper mais qui n'ont pas le niveau de maturité de la technologie qu'on peut avoir ici.
Oui. Alors justement, vous disiez, oui, vous voulez multiplier par 10 les ventes de services liés à l'IA. C'est quand même des objectifs quand même très ambitieux, non ?
Bah, à partir du moment où vous partez de zéro et que
oui,
tout le monde se met
merci,
à,
oui, c'est vrai.
Voilà, hein, tout le monde se met à s'y mettre. Et encore une fois, je le dis, aujourd'hui, toutes les entreprises s'y mettent. Elles s'y mettent sur des petits sujets pour comprendre, pour apprendre. Mais nous, on a fait un effort de formation de nos salariés. 100% de nos salariés ont été certifiés et ont des outils IA pour accompagner les clients. Donc, on a fait un effort en avance. On est prêt sur le marché pour parler avec une certaine maturité des sujets avec nos clients. Et donc, oui, on va être très bien positionné pour accompagner nos clients qui vont se transformer avec l'IA. Donc, le potentiel, il est là.
Oui, d'accord. Alors, justement, vous avez dit la force de Devoteam, quand je vous interpellais en disant, mais après tout, il y en a plein d'autres sur ce créneau-là, c'est que vous êtes associés, enfin depuis longtemps, vous avez des partenaires qui sont les grands partenaires américains, qu'ils soient Google Cloud, Microsoft,
AWS, enfin Amazon,
enfin bref, tous les grands, Nvidia, important à souligner.
Bien sûr.
Bref, vous êtes complètement dans les mains des Américains.
Alors, nous avons.
Où est la souveraineté française là-dedans, Stanislas de Betzmann ?
Mais alors, d'abord, ce
est-ce que c'est
un dire...
concept qui veut dire quelque chose pour vous ?
Très faible. Je comprends que les gouvernements, les entreprises très sensibles aient la nécessité de faire la différence entre des datas sans valeur, voilà, la prise de congé des salariés, je ne sais pas si ça doit être une data qui est protégée, Fort Knox, vous voyez. Ouais. Bon. Donc il y a des datas qui ne sont pas très importantes, elles sont nécessaires pour l'utilisation de la vie d'entreprise, mais elles ne sont pas sensibles. Par contre, quand vous êtes une entreprise, d'abord, soit extrêmement sensible en cas de guerre, en cas d'attaque, il y a des entreprises qui doivent avoir une stratégie spécifique. On respecte ça et nous, on travaille sur les clouds souverains. Donc, ce n'est pas du tout qu'on refuse de travailler avec une dimension souveraine. Pas du tout. Simplement, vous ne pouvez pas vous extraire d'un cycle d'innovation majeur. Et vous devez être au contact de ces innovations majeures. Sinon, vous êtes en dehors du jeu. Or, il n'est pas possible pour l'économie française d'être en dehors du jeu. Il n'est pas possible pour les entreprises françaises de s'extraire du cycle d'innovation. Si l'innovation est
européenne... Mais c'est pas, vous pouvez pas aller dans le cloud d'Assos System, dans le cloud d'Orange, enfin, vous voyez, je veux dire...
Mais non, on travaille avec OVH, on travaille avec Dassault System sur son cloud, donc on n'est pas du tout contre le cloud souverain. Simplement, encore une fois, ce sont des clouds qui ne vont pas à la vitesse d'investissement dans l'innovation que peut rendre un cloud de Google ou de Microsoft ou d'AWS. Ça n'est pas aujourd'hui au même niveau d'innovation. Ça veut dire que si vous choisissez de mettre de la data dans un cloud souverain et vous allez le faire pour des datas très précises, et vous avez sans doute raison de le faire, et on travaille avec des clients sur du cloud souverain, mais l'IA, ça peut se mettre sur un cloud public, un cloud privé, un cloud souverain tel que vous venez de les décrire, et c'est la stratégie et la décision de l'entreprise. Maintenant, quand vous êtes sur un cloud souverain, vous êtes sans doute beaucoup plus onéreux en termes de traitement de l'IA, parce que vous êtes dans un mode où vous n'avez pas la capacité à amortir sur des milliers, des milliers, des milliers d'entreprises. Et ensuite, le rythme d'investissement dans l'innovation, dans l'IA, des fournisseurs de cloud américains aujourd'hui, est sans commune mesure avec ce que les autres peuvent faire. Et c'est pour ça que les clouds, les initiatives souveraines pour le moment, elles ont eu pas beaucoup de développement. Il faut le reconnaître.
En même temps, quand on voit OpenAI, on parlera de la guerre des talents dans un instant, parce que ça aussi, c'est un point important. Mais OpenAI, il y a 600 milliards de dollars. Google Cloud, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, c'est aussi des centaines de milliards. Est-ce que, finalement, on n'est pas en train d'investir massivement dans l'intelligence artificielle, parce qu'on voit bien qu'il faut aller vers là, mais que finalement, après, il y aura des grosses déceptions?
Il y aura des grosses déceptions ou des fantastiques bénéfices, on verra bien. Et voilà, on peut dire ça du cloud. Le cloud, ça a été une révolution profonde. Et aujourd'hui, il y a des déceptions parce qu'on dit « Ah, ben, ça me coûte plus cher, j'ai mal géré. » Puis il y a la plupart d'entreprises ont énormément gagné d'agilité, de flexibilité, de vitesse de déploiement et de capacité d'innovation grâce au cloud. Donc, des déceptions pour ceux qui auront plus ou moins mal travaillé ou auront peu ou mal déployé leur IA, sans doute.
Mais pour vous,
mais je pense qu'il y aura surtout un gain d'une création de richesse grâce à l'automatisation de la data, de l'utilisation de la data grâce à l'IA, qui a un potentiel de productivité extraordinaire. Et ce potentiel de productivité extraordinaire, ça va enrichir les entreprises, enrichir le pays, et ça va nous permettre aussi de faire face à une tendance de fond qui est la baisse de salariés. Vous parliez de talents, ça va donner
justement
de l'espace pour les entreprises à continuer à se déployer malgré le vieillissement de la population, malgré la baisse de population salariée et salariale. C'est le seul outil qu'on a en face de nous pour conserver notre richesse et même être capable d'investir dans la santé, dans le vieillissement de la population. Donc je pense que c'est un bénéfice majeur pour les pays développés.
Juste un point, c'est très important ce que vous venez de dire. Juste un point, simplement il nous reste 30 secondes pour aborder un sujet très important, la guerre des talents. Parce que je parlais d'OpenAI, ils viennent d'ouvrir à Paris, Google est déjà à Paris, Meta, Facebook. De vos teams, vous avez besoin des meilleurs si vous voulez doubler les chiffres d'affaires.
Bien sûr.
Comment est-ce que vous allez faire?
Eh bien,
vous les payez plus cher, vous faites quoi?
On va laisser à Google et à OpenAI
le soin
de. Et puis, à la fin, une fois qu'ils auront embauché les 300 ou 400 ingénieurs dont ils auront besoin, on aura les 2000 suivants qui viendront chez Devoteam parce qu'ils voudront travailler aussi avec les meilleurs de Google, aussi avec les meilleurs d'Nvidia.
Ah oui. Oui, donc c'est comme ça que vous allez les avoir.
Voilà, c'est comme ça qu'on va
merci
les accueillir.
Merci beaucoup. Tiens, juste le télétravail. Ça existe encore chez Devoteam ou alors vous pensez comme tout le monde qu'il faut y revenir?
Je pense qu'il faut être raisonnable sur le télétravail. Mmh. Un peu de télétravail c'est bien, beaucoup ça pose des problèmes qui sont pas favorables au développement des entreprises et des talents.
Ouais. Merci beaucoup. Stanislas de Bensman, le patron de Devoteam, était notre invité avec ses ambitions dans l'intelligence artificielle. De toute manière, il faudra y passer.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts BFM.
Allez oui, les experts BFM, déjà jusqu'à 19h pour décortiquer ensemble l'actualité économique de ce soir. Edwige Chevrillon reste avec nous. Rebonsoir Edwige. Mathieu Pechberti est avec nous pour BFM
bonsoir
Business.
Guillaume.
Bonsoir Mathieu. Puis Denis Le Bossé, président du cabinet ARC, qu'on ne présente plus. Allez. Si vous nous écoutez tous les jours, les publicités, le cabinet de recouvrement des impayés. Bonsoir Denis Le Bossé.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. On parlera de ces chiffres qui ont circulé ce matin encore. Il y en a beaucoup ces temps-ci sur les défaillances d'entreprises. On attend évidemment votre éclairage. Beaucoup de choses à voir, à commencer alors par ce que nous racontait Stanislas de Bensman, Devoteam. On est dans l'accompagnement, la transformation digitale des entreprises.
Et encore le problème de 2024 d'expliquer aux entreprises pourquoi elles doivent passer à l'IA, peut-être pas tout de suite, mais qu'il faut y aller petit à petit. C'est pas simple, ça, quand même.
Bah non, parce qu'on voit bien que les entreprises, elles se disent, on dit, on veut parler d'IA, mais on me demande d'investir, je vais acheter un nouveau logiciel, je sais même pas à quoi il va correspondre dans mes fonctions. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu des craintes, alors peut-être pas des grandes entreprises, bête moi, mais en tous les cas des ETI, des PME, qui voient pas forcément qu'est-ce que ça va leur rapporter. Oui. Donc, c'est un peu toute la difficulté. Ce que j'ai trouvé intéressant, peut-être, dans ce que nous a expliqué, c'est les as de Bestman, c'est de dire, en fait, déjà, bon, on les accompagne, on est avec les grands géants américains, alors là, lui, la souveraineté là-dedans, il ne voit pas très bien, peut-être sur certaines données clés, mais...
Il est un peu éludé, quand vous lui posez la question de la souveraineté
dans
tout ça.
Oui, non, pour lui, c'est la souveraineté, ça n'existe pas vraiment, enfin, je veux dire, c'est un enjeu faible, par rapport à... Alors, il y a des données qui sont stratégiques, mais qu'à la limite, on peut très bien les mettre dans des clouds. Et il dit, mais de toute manière, on les accompagne déjà sur la transformation technologique, sur l'évolution des
le cloud, la cyber, la data,
les data. Donc, c'est dans le prolongement de l'intelligence artificielle, et c'est là où on peut les accompagner. J'ai trouvé que la démarche était moins stressante.
Mais il faut aussi aider les entreprises à découvrir ce que sont les cas d'usage véritablement de l'intelligence artificielle. Voilà.
C'est toute la difficulté.
Comment se poser la question il y a 25 ans, l'émergence d'Internet, finalement être sur Internet, mais pourquoi faire? Voilà,
c'était tout un problème. Ah, prenez l'exemple qu'on connaît tous de la traduction, en disant ça coûtait 1 euro, maintenant c'est 0,1 euro. Oui. Mais à la limite, là je vous prends un exemple de traduction, ça peut très bien être sur la data d'une entreprise. Oui. Donc, de toute manière, il dit on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc, allons-y.
Et il dit, si vous n'y allez pas, votre concurrent ira et vous paierez les pots cassés à la fin. Quoi. Mathieu pêche bien.
Doublement de son chiffre d'affaires quand même.
Oui, quand même. Mais il dit qu'il travaille déjà avec les deux tiers de l'Eurostox 50, ce qui est quand même assez conséquent. Ouais. Mathieu.
C'est aussi un relais de croissance évidemment important pour ces entreprises-là, Devoteam, et les autres, en tout cas les autres géants du secteur informatique en France, géants en tout cas grandes entreprises, parce que c'est quand même un secteur qui est en train de souffrir. Il y a eu l'été dernier des abaissements d'objectifs importants de la part des deux leaders français, Capgemini et Sopra Steria, qui prévoient maintenant un recul de chiffre d'affaires pour 2024. Oui. Parce que les entreprises, notamment dans certains secteurs comme l'automobile, qui sont confrontées à des crises importantes, réduisent beaucoup leur budget informatique. Donc, comprennent bien que là où elles faisaient le business as usual, il faut aussi vendre autre chose maintenant. Oui. Et évidemment, l'IA, c'est une manière de vendre autre chose et d'avoir de la croissance.
J'ai juste un petit point que j'ai trouvé assez pragmatique. Parce que je disais, mais la guerre des talents, OpenAI ouvre à Paris, il y a Meta, il y a Google, comment vous faites pour attirer les meilleurs? Il dit, non, moi je suis très calme, les 300 meilleurs peut-être, ou les 300, ils vont aller chez OpenAI et chez les géants américains, moi je prends les 300 derrière qui seront ravis d'aller bosser avec les 300 autres. Donc pour moi ça ne me pose aucun problème. Je trouve que c'est une logique...
C'est vrai qu'effectivement c'est arrivé en fanfare d'OpenAI, il a suscité... D'ailleurs ils ne s'en sont pas cachés, ils ont dit on vient pour taper dans le vivier français, très clairement.
Ah voilà, oui, le vivier français, il est très important.
Ça a été sans équivoque. Alors des talents, il y en a aussi beaucoup chez Atos, Mathieu. On fait venir Mathieu Pêche-Berti, évidemment, parce que... Alors j'en ai un petit peu bizarre, la justice en fait s'est penchée aujourd'hui sur le plan de sauvegarde du groupe. Elle a mis sa décision en délibéré à une date indéterminée. Ce qu'on peut dire, c'est que Atos, qui va passer aux mains de ses créanciers, va rester très endetté. Dit autrement, est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle cure d'austérité, d'amincissement dans les 18-24 mois, Mathieu, chez Atos?
Écoutez, moi sur ce sujet, il n'y a pas une personne qui me dit l'inverse, voilà, pour essayer d'être clair. Que ce soit en interne, les dirigeants du groupe, d'anciens qui ont encore un œil dedans, des créanciers actuels d'Atos, les nouveaux actionnaires, les banques françaises qui sont pas pour très longtemps encore présentes chez Atos, personne ne croit au redressement d'Atos. C'est quand même... Enfin, c'est assez rare dans une restructuration d'une telle ampleur, où en général, on casse un petit peu tout et puis on essaie de repartir de zéro, difficilement, mais souvent. Là, tout le monde est persuadé que la société ira mal. Pourquoi ? D'abord, parce que la restructuration de la dette n'a pas été suffisamment importante. Il y a eu 3 milliards de dettes écrasées quasiment, un petit peu moins. Mais en contrepartie, les actuels créanciers qui vont devenir les nouveaux actionnaires d'Atos dans quelques semaines ont prêté de l'argent à Atos, mais à des taux d'intérêt, pas pour toutes les lignes de crédit, mais à des taux d'intérêt pour certaines qui vont de 10 à 13%. Donc autant vous dire que la charge de la dette, on en parle beaucoup pour la dette française, mais la charge de la dette pour Atos sera entre 250 et 300 millions d'euros entre cette année et l'année prochaine. Alors que la société, déjà, a des difficultés, il y a beaucoup de cadres qui sont partis ces derniers mois, on entend beaucoup dire, c'est difficile de le confirmer avec des noms précis, mais on entend beaucoup dire que les autres clients, Devoteam, Capgemini, Sopra Steria, piquent des grands clients à Atos. Et alors même, pour terminer, que le secteur a des difficultés. Donc on a du mal à voir ce redressement-là. Et très honnêtement, aucun créancier d'Atos aujourd'hui n'y croit réellement. Les banques françaises qui vont devenir actionnaires d'Atos en partie, hein, pour celles qui avaient des petits bouts, vont quasi toutes ou quasiment toutes vendre leur part dans Atos et même rompre leur relation commercial avec Atos. Enfin, c'est, franchement, c'est du jamais vu. Oui. Une entreprise française, quand elle se restructure, elle est portée à bout de bras par les banques françaises et par, comme on dit, la place financière de Paris. On l'a vu sur Casino, on l'a vu sur Orpea. Là, ce ne sera plus le cas. Et donc, pour les plus pessimistes, ça arrivera dans 6 mois. Bon, je pense que c'est très pessimiste. Mais il est très probable qu'à la fin de l'année 2025, quand on fera les comptes de l'année 2025, bon, on se rende compte qu'il faudra retourner, repasser à la caisse, comme on dit.
Ça, les marchés l'ont sans doute déjà anticipé, ça.
Sûrement. Coup,
Non, surtout, c'est que, oui, pour compléter juste sur ce point-là, ce qu'on n'arrive pas tellement à cerner, on a bien vu du reste les atermoiements de l'État, c'est où est-ce qu'éventuellement il y aura la coupure entre la partie dite souveraine, alors, défense, cyber, enfin, voilà, toutes les activités dont nous parlait Mathieu depuis de longs mois maintenant. Et là, on arrive, bah, visiblement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord.
L'État a dit qu'il allait revenir à la charge, entre guillemets, dans quelques temps sur ce sujet avec un
plan. Vous parlez à des partenariats, enfin, des gens susceptibles d'être intéressés, ils vous disent bah, c'est encore très cher et on ne sait pas quoi.
Là, c'est une négociation, là, on est dans la.
Oui, a priori, l'État va effectivement reprendre, en tout cas, c'est tout ce qui est prévu pour le moment encore ses activités de souveraineté, mais beaucoup plus, il reprendra un périmètre beaucoup plus petit que ce qu'il prévoyait jusqu'ici, puisqu'il n'était pas prêt à payer autant que ce que voulait Atos. Et Atos ne peut pas vendre trop d'activités, parce que plus il vend d'activités, plus il s'assoit sur un périmètre plus petit, alors qu'il a une dette très importante. C'est un peu l'effet boule de neige et le cercle vicieux. Mais alors que le tribunal va rendre sa décision fin octobre, un délibéré attendu fin octobre, les créanciers se préparent en fait déjà à voir ce qui pourrait être vendu ici ou là pour, entre guillemets, boucher les trous. Mais on risque d'en reparler assez vite, malheureusement.
Tout ça avec un nouveau. Alors, président du conseil d'administration, Philippe Salle, qui a été nommé hier, alors qu'il ne sera PDG qu'en février prochain, visiblement.
Bah, notamment pour boucler la vente des activités dites sensibles à l'État. Ça, c'est Jean-Pierre Mussier, l'actuel PDG, qui va finir de gérer ça. Et ensuite, il quittera l'entreprise après l'avoir géré.
Comme beaucoup d'autres avant lui, il y a eu un tel turnover chez Atos depuis quelques mois.
Mais lui avait un profil de financier, effectivement.
Un problème de financier, il venait de la Société Générale.
Il aura peut-être raté une restructuration.
Oui. Voilà pour ce dossier Atos, qu'on continue dessus, évidemment, au jour le jour sur BFM Business. Merci beaucoup Mathieu.
Merci
Mathieu
Pechberti,
qui est passé nous voir sur BFM Business, 18h45. Les défaillances d'entreprises, donc, avec ces chiffres que nous a donné ce matin le cabinet Altares. On va en parler avec vous, Denis Le Bossé. Merci d'avoir patienté. Cabinet Altares qui nous dit, au troisième trimestre, nous faisons plus 20% de défaillances d'entreprises par rapport à la même période de 2023. Mais il nous dit aussi en parallèle, finalement, c'est moins noir que sur le deuxième trimestre. Autrement dit, les choses s'améliorent. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi, finalement,
Jean-Pierre ? L'amélioration, elle est pas, on la mesure pas aujourd'hui.
Vous la mesurez pas, vous ?
Non, on la mesure pas. Il y a certainement, on espère que ça s'améliorera. Aujourd'hui, on est dans une vague où des entreprises se sont créées leur mur de dette. Leur propre mur de dette. Avec des factures, enfin, des dettes fiscales, sociales, qui se sont accumulées pendant la période Covid, ainsi que le PGE en plus. Aujourd'hui, elles doivent rembourser ces retards et les charges courantes. Avec des difficultés à financer leurs besoins en trésorerie, à renégocier leur PGE, parce que des banques leur demandent de rentrer dans une conciliation pour renégocier leur PGE. Ce qui entraîne aussi un désengagement des assureurs crédits. Donc, en fait, ce sont des, c'est pas tout le tissu économique, mais ce sont des entreprises, c'est quelquefois des ETI, des grandes ETI, des grandes PME, qui sont rentrées dans cette spirale.
Alors, c'est ça la nouveauté. C'est
quand... Il y en a beaucoup, c'est combien ?
Oui.
Alors, j'ai pas les
quand
chiffres.
Vous posez la question du côté de BPI France ou des banquiers, ils vous disent, mais non, mais en fait, ce n'est que quelques entreprises. Et puis là, on voit encore que c'est un argument qu'on met en avant. Donc, moi, je reconnais, j'ai un peu de mal à me faire une idée réelle.
Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à maintenant, on a eu la sortie de la période Covid où des entreprises zombies qui avaient été aidées pendant la période Covid sont tombées. Bon.
D'accord.
Tout ça, c'est purgé pour vous aujourd'hui. Les entreprises zombies, alors tout le monde n'aime pas l'expression, mais
c'est purgé. Oui, voilà, c'est ça. C'est purgé. Et aujourd'hui, nous sommes face à des entreprises qui... il y en a un certain nombre, parce que quand on voit le nombre des entreprises, on a retrouvé nos chiffres de 2018-2019, mais de 2009.
Oui, oui.
Chiffres importants. Donc les chiffres sont quand même au niveau de la crise de 2009.
Là, on est parti. Alors, Asterès, je ne sais pas quels sont vos chiffres. Le cabinet Asterès nous dit on va faire 66 000 défaillances sur l'ensemble de l'année 2024. Est-ce que vous êtes dans le même ordre de grandeur aujourd'hui?
Oui, on est dans cette... c'est ce qu'on estime, c'est ce qu'estiment les tribunaux de commerce d'ailleurs.
Donc vous dites 2024 sera le pic. Qu'est-ce que
début
vous voyez
2025 plus aussi, je pense.
Début 2025, oui.
D'après nos estimations.
Et alors, pourquoi? Est-ce que c'est cette instabilité politique dont on parlait notamment avec Stanislas de Betzmann, là, pas tous, c'est une très grosse EDI de milliards de Votim. Est-ce que c'est cette instabilité dans laquelle on se trouve maintenant, quand même, depuis de longs mois, hein, c'est beaucoup, instabilité politique en France, mais instabilité géopolitique, évidemment, qui est une des principales préoccupations des chefs d'entreprise. Pour vous, s'il y avait une explication, c'est quoi?
Mais vous avez raison, ces entreprises ont traversé cette période Covid, ont été aidées, etc. Oui. Ensuite, elles ont eu la hausse du coût des matières premières, la hausse du coût de l'énergie, la hausse de la masse salariale aussi, les difficultés de recrutement de la masse salariale. Tout s'est additionné. Et puis, certainement eu un peu d'optimisme aussi sur les carnets de commandes. Certaines entreprises se sont lissées, grisées par des carnets de commandes. Un peu d'euphorie, avec une croissance très forte à la sortie de la période Covid. Donc, ce qui a nécessité un appel de trésorerie important. Lié à ça, vous avez quand même un allongement des délais de paiement.
Alors voilà, justement, la question. Oui. Parce que les chiffres aussi qui sont sortis sont alarmants. Vous êtes à quel niveau, vous, aujourd'hui?
On est à 17 jours.
On est à 17 jours aujourd'hui chez vous.
De délai de paiement. Aujourd'hui, vous avez un crédit inter-entreprise qui est très, très important.
Oui.
Il atteint combien? Vous avez le chiffre par hasard?
Comment?
Il atteint combien, ce crédit inter-entreprise?
Plus de 600 milliards.
Oui, d'accord.
C'est toujours très important. Et vous avez ces entreprises qui sont dans une spirale très complexe, une spirale infernale, sont tétanisées à l'idée d'aller réclamer le paiement de leurs factures auprès de leurs clients grands comptes. J'ai une anecdote la semaine dernière. On a évoqué la dématérialisation de factures comme une solution
miracle. Comme d'habitude.
Et une entreprise dépose une facture sur une plateforme. On lui dit cette facture a été rejetée. Donc le service de l'entreprise cherche à savoir pourquoi sa facture. Et on lui dit, appelez la plateforme. Alors, la plateforme, il n'y a pas de téléphone, pas de mail,
évidemment.
C'est une plateforme. Donc en fait, c'est un dossier qui nous a été confié au cabinet, et nous nous sommes rapprochés des services juridiques pour comprendre pourquoi. Donc voilà, encore une fois, on est très créatif quand même.
C'est ce que disait le médiateur des entreprises que j'ai reçu, je crois que la semaine dernière, il y a 10 jours.
Oui.
Il allait tout à fait dans votre sens.
Pierre Pellouzet qui nous est effectivement.
Voilà, c'est ça. Donc, on le voit auprès de grandes entreprises, mais ça se généralise auprès des ETI, des PME, cette difficulté.
Et il y a toujours l'idée chez vous, vous nous le dites assez régulièrement, et je pense que vous êtes un peu dans le même discours aujourd'hui, qu'il y a toujours la crainte, l'appréhension d'aller demander de l'aide. D'aller demander conseil, qui aux administrateurs judiciaires, qui aux professionnels, parce que aller demander de l'aide, c'est se couper une main, voire plus, d'ores et déjà. Ça reste encore très.
Tout à fait.
Et on pensait avoir fait le travail de pédagogie depuis des années pour expliquer ça, mais apparemment, ça marche pas.
Et dans l'augmentation des procédures collectives que vous avez aujourd'hui, que l'on constate aujourd'hui, vous n'avez pas d'augmentation des. Vous avez une augmentation des redressements et des liquidations judiciaires. Par contre, les procédures de sauvegarde, qui est une procédure d'anticipation, où le dirigeant va de lui-même rentrer dans cette procédure avant qu'il soit en état de cessation de paiement, ce nombre de procédures n'a pas augmenté. L'augmentation, c'est sur les redressements judiciaires, les liquidations judiciaires.
Oui. Donc, on n'arrive pas à faire on n'a pas su faire la pédagogie aller aux demandes des difficultés.
Et il ressort de notre baromètre que 60% des entreprises, aujourd'hui, ne connaissent pas les différents médiateurs. Médiateurs du crédit, médiateurs inter-entreprises. Alors, parce que elles ont leur seul contact, c'est l'expert comptable. L'expert comptable sort le bilan, mais il n'a pas le temps de conseiller tout l'ensemble de ses clients.
Oui.
Non, mais c'est... on voit bien qu'il y a quand même... Moi, j'aime bien votre expression de dire qu'effectivement, il y a une forme d'euphorie par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu trop de... Oui, peut-être que le frein, ils n'ont pas activé le frein suffisamment tôt. Voilà,
Exactement. Et aujourd'hui.
Mais ça veut dire quand même que la politique économique qui a été menée vis-à-vis des entreprises, un peu le grand débat aujourd'hui, mais on ne va pas l'aborder tout de suite, là. Mais ça n'a pas forcément été très, très efficace. Hein, parce que si on se retrouve au même niveau comme elle, 2009.
2009, oui. Et quand aujourd'hui, un quart des entreprises interrogées dans notre baromètre, des PME et des TPE-PME estiment ne pas pouvoir faire face à instant T à l'ensemble de leurs charges PGE, différentes charges fiscales, sociales et factures.
Toute taille d'entreprise confondue aujourd'hui, c'est ça. Donc vous nous dites, alors 66 000, nous dit le cabinet Altares pour cette année, vous êtes dans le même ordre de grandeur, vous dites le pic en début d'année prochaine, mais accalmie sur 2025 globalement.
J'espère en courant 2025,
mais pas aucune certitude à ce stade,
non,
évidemment, l'environnement. Évidemment,
tout alors là, vous aviez raison, c'est, tout dépend de la conjoncture économique. Est-ce qu'on va avoir une la reprise, est-ce qu'on va avoir une reprise, et quelle sera la politique mise en place.
Et le contexte politique jouera évidemment dans tout ça. Merci beaucoup Denis Le Bossé, merci de passer nous voir. 18h50 de vue sur le web. Pour terminer, coup de projecteur sur un article de bfmbusiness.com, c'est Sylvain Trinel qui est avec nous. Entrez Sylvain, bonsoir. On en a parlé, journaliste chez Tech & Co, 8 mois après la précédente, donc nouvelle grève lancée chez l'éditeur français Ubisoft, Sylvain.
Exactement, jusqu'au 17 octobre, les salariés de plusieurs studios d'Ubisoft à travers la France, on pense notamment à Annecy, Montpellier, Paris ou encore Bordeaux, eh bien, ils sont invités à faire grève ou à réaliser des débrayages de la part des organisations syndicales. Alors les raisons, elles sont multiples. Il s'agit pour les syndicats et représentants du personnel de faire plier la direction afin qu'elle revienne sur son projet de faire revenir tous les salariés au moins 3 jours par semaine au télétravail permanent. Alors bon, il est aussi question de hausse de salaire, notamment pour les très bas salaires, et plus globalement d'un manque de dialogue social dans les hautes sphères d'Ubisoft vis-à-vis de leurs 18 000 salariés.
Oui, puis il faut arriver, c'est une grève qui arrive à un moment compliqué pour Ubisoft, il faut le rappeler quand même.
Oui, effectivement, depuis le report de sa prochaine super production Assassin's Creed Shadows, mais aussi après l'échec de Star Wars Outlaws qui bénéficie d'un énorme budget, Ubisoft a vu sa cote en bourse sensiblement baisser. Elle a quasiment atteint les 9 euros il y a quelques jours. Plus globalement, c'est la situation chez l'éditeur français qui est difficile à vivre pour tous les salariés, avec lesquels d'ailleurs Tech & Co a pu s'entretenir, notamment en raison d'une défiance affichée envers la direction, dont Yves Guillemot, le cofondateur de l'entreprise, mais également le PDG actuel. Du côté d'Ubisoft, on nous répond que le dialogue n'est pas suspendu, contrairement à ce qu'affirment les représentants des syndicats. Les prochains mois, évidemment, ils seront décisifs pour connaître notamment le sort réservé aux employés qui décident de ne pas respecter cette règle sur le télétravail, et surtout pour l'avenir d'Ubisoft.
Ça peut avoir de test, ce qui va se passer autour du télétravail chez Ubisoft. Yves Guillemot, qui n'est plus vraiment en odeur de sainteté, lui, le fondateur, c'est la famille fondatrice quand même.
Ah, bah oui, c'est pas 5 frères.
Ils étaient 5 frères à l'origine, dans les années 80, quand ils ont lancé ça.
Il fallait toujours faire un peu attention, c'est peut-être parce que. C'est un fleuron français, même, qui développe beaucoup au Canada. Mais sur le télétravail, il y a quand même un problème, parce que tout d'un coup, les chefs d'entreprise se rendent compte qu'effectivement. C'est plus la même chose. Même, il n'y a plus de culture d'entreprise. Il y a vraiment. Il se passe quelque chose d'important. Mais, comme ils ont autorisé le télétravail, il y en a qui sont allés vivre à La Rochelle, qui sont allés vivre à Orléans, qui sont allés vivre en Bretagne. On fait quoi, là, maintenant? Qu'est-ce qu'ils font? Ils revendent leur maison et ils reviennent à Paris. Enfin, vous voyez, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts.
Là, c'est un sujet de crise. Oui, c'est ça.
Ils laissent penser qu'effectivement, Ubisoft cherche à dégraisser en douceur ses salariés.
Et que l'histoire du télétravail n'est qu'un fauné des. Destiné en fait à.
Voilà, sans pour autant faire peur aux actionnaires et aux investisseurs.
Une
des possibilités, effectivement, on verra dans les prochains jours ce que Ubisoft a à répondre, notamment avec son partenaire Tencent, avec lequel ils sont en business.
Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de rumeurs.
Ben Swan disait, lui aussi, boîte de consulting, dans la tech. C'est pas les jeux vidéo, mais c'est aussi lié. Il lui disait, c'est sûr que nous, maintenant, le télétravail, on y revient très largement.
Oui. Ah, mais Ubisoft le dit, ça nuit à la créativité, effectivement, le fait de ne pas avoir tous les salariés au moins quelques jours en présentiel. À lire donc sur bfmbusiness.com au même titre que bien des articles. Merci beaucoup Sylvain, merci de passer nous voir, Sylvain Trinel avec nous sur BFM Business. Edwige, demain, 18h10, on se retrouve.
Demain, tiens, parce qu'on a vu, on parle du budget, les gens ils sont pas contents, les patrons, etc. Oui. Les agriculteurs non plus. Et je recevrai Nicolas Chabanne, c'est qui le patron? Grande figure de l'agriculteur, de l'agriculture française, qui nous dira un peu dans quel état d'esprit il est. Puis alors surtout, c'est que lui, il se démène justement face à Lactalis, face aux géants de la distribution qu'il est en train de réunir en ce moment. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Il va nous venir avec sa petite brique de lait, comme à l'accoutumée.
Il n'y a pas que, il y a de plus en plus de produits.
Il y a le beurre, il y a la gamme s'étend peut-être.
Il est vraiment utile. En fait, c'est lui qui voudrait nommer ministre de l'Agriculture.
Ah, écoutez, vous lui poserez la question, il sera peut-être intéressé. Ça peut arriver très très vite dans ce genre de situation.
C'est Michel Barnier qui vous pose la question.
Allez, demain, Nicolas Chaban, 18h10, 18h56. Eh ben, le journal dans un instant. On va vous redonner les chiffres de LVMH qui sont tombés là après bourse sur le troisième trimestre, qui sont pas bons. Chiffre d'affaires en baisse. Et puis, on va aller justement, tiens, devant le siège d'Ubisoft où vous entendrez de vive voix les salariés qui contestent le retour, en tout cas le coup de frein sur le télétravail. Tout ça, plus bien d'autres choses, évidemment. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats, interviews des grands acteurs de l'économie.